voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Karine Ganimbaya reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir. dédicace@radiocapi.net.
Bien, nous parlons du comportement adopté lorsqu'on est atteint du VIH-Sida. Vous êtes sans ignorer que lorsqu'une personne apprend qu'elle est atteinte du VIH-Sida, il peut arriver que cette nouvelle l'affecte. Pourtant, selon les experts, on peut bien vivre avec cette maladie si la prise en charge est correcte. Quelle conduite donc adopter lorsqu'on est atteint du VIH-Sida? Jean-Serge Loumou, vous êtes spécialiste, je voulais dire, en VIH-Sida. Vous êtes notre invité, bonjour.
Bonjour Nounou.
Alors, nous parlons avec vous du comportement à adopter lorsqu'on est atteint du VIH-Sida. Pour commencer, Jean-Serge, comment savoir qu'une personne, comment est-ce qu'une personne peut savoir qu'elle est atteinte du VIH-Sida? Est-ce qu'il y a des signes alertes?
Merci de me recevoir et merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet. Je dirais qu'il n'y a pas quatre façons de savoir qu'une personne est infectée par le VIH, sinon en passant par le dépistage. Et donc, sans dépistage, il n'y a aucun autre moyen de déterminer qu'une personne est infectée.
Alors, Jean-Serge, vous dites qu'il faut se faire dépister et lorsque c'est positif, quel comportement il faut adopter?
Et lorsqu'on est dépisté positif, la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que être infecté ne signifie pas qu'on est mort ou qu'on va mourir le lendemain. Comme tu le disais si bien à l'introduction, qu'on peut vivre bien plus longtemps, même infecté, pourvu qu'on garde une attitude positive. Il faut aussi accepter son statut, parce que le comportement commence par les attitudes que nous adoptons vis-à-vis de cette infection et de son nouveau statut sérologique. Donc, il faut accepter ce statut tel qu'il est et être ouvert à l'aide, parce que là aussi est le problème. Il faut accepter de se faire accompagner et s'assurer qu'il y a toujours de l'espoir pour quelqu'un qui vit.
Oui, Jean-Serge. S'accepter et se faire accepter par les autres, de quelle manière? Est-ce qu'il faut se confier? Il faut dire à tout le monde, voilà, j'ai le sida, je suis atteint.
Commencer par accepter
le
son statut.
Ouais.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chercher de l'aide. Il y a des personnes appropriées, peut-être qu'on ne va pas crier sur le toit, mais il y a des personnes appropriées vers lesquelles il faut partir pour bénéficier d'un accompagnement, pour bénéficier d'un soutien, pour bénéficier. Ces personnes vont vous aider dans le premier pas vers l'acceptation de votre statut, mais aussi pour vous permettre de vous insérer ou de continuer à vivre dans la communauté sans être marginalisé.
Mais qui sont ces personnes qui doivent vous prendre en charge psychologiquement? Je présume que c'est la prise en charge psychologique.
Oui, vous savez que dans le cadre de l'organisation de la lutte contre le VIH en République démocratique du Congo, il y a des structures qui sont spécialisées pour l'accompagnement psychosocial et socio-affectif des personnes infectées. Mais il y a aussi, nous sommes dans un pays très croyant, je voulais dire très chrétien, il y a actuellement de plus en plus de prêtres et des pasteurs qui sont formés pour non seulement l'accompagnement psychosocial des fidèles de manière générale, mais dans le cas ici précis. Mais dans la famille, il y a toujours aussi quelqu'un qui peut être pour vous un soutien. Quand on fait le dépistage, il y a toujours une question qu'on pose. Qui dans votre entourage pensez-vous qu'il est le mieux placé de vous appuyer si jamais on lui donnait l'information? Et est-ce que vous acceptez qu'on lui donne l'information? Donc, il y a toujours quelqu'un qui peut vous comprendre, qui peut vous accompagner dans ces processus d'acceptation.
Oui, mais Jean-Serge Loumou, ces personnes qui peuvent vous accompagner, qui doivent vous accompagner, ne vont pas divulguer la nouvelle, puisque nous sommes Africains, surtout dans notre milieu. Ce n'est pas toujours agréable d'apprendre qu'on est atteint du VIH-Sida ou que telle personne, on souffre un peu de la stigmatisation.
Oui, mais je crois que on a discuté de cela, je crois, à la dernière émission. Pour prendre le cas des pasteurs, de prêtres et des conseillers, si vous voulez, qui sont préparés pour l'accompagnement psychosocial des personnes infectées ou affectées, ils sont liés par la clause de la confidentialité. Mmh. Ils le savent. Ils savent aussi que ça ne sert à rien de divulguer les informations qu'on a reçues parce que ça n'apporte aucun bénéfice, au contraire. Donc, je pense que une personne qui est formée, qui est qualifiée pour ça, ne va pas divulguer. Donc, on se doit de leur faire confiance. Et ici, c'est aussi le lieu d'une interpellation, que ces personnes savent, qu'ils sachent plutôt qu'ils ont la responsabilité d'aider cette personne à continuer à vivre parce qu'il a droit
mais dites-moi,
à la vie.
Oui, mais dites-moi, si on divulgue cette information ou cette nouvelle à la place publique, est-ce que ça peut
tuer? La loi a déjà réglé cette question. Nous avons la loi sur la protection des personnes vivant avec le VIH. Et cette loi insiste sur la confidentialité, sur le statut sérologique de quiconque. Donc, on n'a pas le droit de les divulguer, sinon avec l'autorisation de la personne elle-même. La personne elle-même a le droit de partager les informations sur son statut avec qui il veut, dans la perspective notamment de se faire accompagner. Mais aussi, vous savez, plus vous gardez caché, plus vous gardez l'information pour vous-même, plus vous faites du mal, plus vous souffrez en silence. Et personne n'a le droit. En tout cas, personne ne devait souffrir en silence dans une Afrique connue par ses vertus de solidarité.
Jean-Serge Lomou, je rappelle que nos auditeurs peuvent participer à cette émission en nous appelant au 081 890 63 94. Ils peuvent également nous écrire un SMS au 081 711 50 01. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Nous avons Gabriel Bétou qui nous appelle depuis Kalima. Nous sommes là dans le Maniema. Et Gustave Bakalé qui est à Kananga. Alors, nous commençons avec vous, Gabriel. On vous écoute. Gabriel, vous êtes en ligne. On vous écoute. Gabriel, vous nous appelez de Kalima pour intervenir à l'émission. Vous êtes en ligne. On vous écoute. Bon. Gabriel, on me signale que Gabriel n'est plus en ligne. Gustave Bakalé, vous êtes à Kananga. Nous vous écoutons. Voilà. Jean-Serge, nos auditeurs sont partis, ils vont nous rejoindre après. Mais on nous informe que Dalia est en ligne depuis Matadi. Dalia, vous êtes en ligne, on vous écoute.
Bonjour.
Bonjour Dalia.
Bonjour Nounou Ngoï, bonjour à l'invité et à tous les auditrices et auditeurs de la radio Capi. Mmh.
Vous avez une question à poser à notre
invité? J'ai deux questions de préoccupation. La première, c'est par rapport au dépistage. Je voulais que l'invité puisse un peu nous préciser. Qu'est-ce qui fait que ou qui justifie qu'une personne qui se fait dépister positivement, on l'a dépisté, on déclare que son état sérologique, il est infecté par rapport au VIH. Mais à l'écart d'un mois et quelques jours, on se dit qu'il revient pour vérifier encore et passer encore son test, l'on constate qu'il est maintenant dépisté négativement. Et comment est-ce que cette personne-là pourrait être sûre par rapport au dernier résultat de son dépistage? Et la deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'accompagnement psychosocial. On remarque qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui sont déjà personnes vivant avec le VIH, et parfois ils récitent. Ils sont déjà pris en charge, mais ces récits-là, ils disent à quoi? Soit ils font une perte de mémoire, tout cela se dit à quoi? Est-ce que, par rapport à l'accompagnement psychosocial, aux normes requises, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une personne qui est déjà sous traitement, sous accompagnement, ne puisse pas perdre cet élan-là pris dans sa vie?
Ok, merci à vous Dalia. Jean-Serge Lumou.
Je crois que par rapport aux résultats, ce que nous devons savoir, c'est que on demande toujours que le premier résultat, le premier test soit confirmé. Et lorsqu'il y a des doutes, on refait encore le test. Vous savez que les conditions dans lesquelles le test est réalisé peut comporter, si vous voulez, des erreurs. C'est pour ça que lorsque on a des doutes sous le premier résultat, on demande à la personne...
Sous le premier dépistage, vous voulez dire...
Oui, quand on fait le premier dépistage qui donne le résultat, on demande toujours à la personne...
De revenir trois mois après,
tout en gardant le condition des sécurités, c'est-à-dire ne pas avoir des rapports sexuels
non protégés,
ne pas s'exposer à l'infection, de manière à ce que trois mois après, on puisse faire le test. Au besoin, on peut même faire deux, trois fois pour avoir les cœurs nets sous le résultat. Ça dépend aussi des types des réactifs qu'on a utilisés dans le cas de texte. Donc ça, c'est sur le plan technique.
Donc il y a des erreurs techniques. Vous voulez dire qu'il y a des erreurs techniques? Les erreurs techniques peuvent arriver.
Il est possible que sur le plan technique, on puisse avoir des doutes sur le résultat et les prestataires le savent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que par rapport à ceux qui sont pris en charge, pourquoi ils rechutent, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on peut s'accepter à un moment, et puis à un autre moment, une raison, une autre, et puis on refuse, on se révolte. On peut refuser de suivre le conseil donné par soit le prestataire ou soit le médecin, selon le cas. On peut, si on est sous une prise en charge médicale, on peut ne pas suivre correctement la prescription médicale. Il y a aussi l'aspect, il y a des personnes qui ne se protègent pas. Vous savez qu'une personne infectée a le droit d'avoir des rapports sexuels, mais pourvu que ces rapports sexuels soient
des rapports sexuels protégés.
Et donc, s'il ne les respecte pas, il ne respecte pas la protection, il peut s'exposer encore.
Oui, mais Jean-Serge Loumou, nous savons que dans notre pays, ou peut-être sur d'autres cieux, il y a des gens, Dalia a peut-être raison de le dire, nous avons déjà appris que des gens, il y a eu le dépistage, la personne, les résultats se sont révélés positifs, et puis après, la personne a commencé à prier, et quelques temps après, le pasteur dit que la personne est séronégative, on a déjà entendu ça.
Oui, j'étais en train de dire ici,
ça peut arriver.
Le seul moyen de déterminer que quelqu'un est infecté ou ne l'est pas, c'est à travers un dépistage. Le pasteur peut faire une proclamation de la foi, mais cette proclamation de la foi
ne veut rien dire.
Ses doigts, je ne dis pas qu'il ne veut rien dire, parce que je crois que Dieu est capable de faire des miracles. Et ça, je le proclame. Mais ici, quand Dieu fait un miracle, ce miracle se vérifie. Et donc, s'il y a une proclamation du pasteur, il faut que la personne, par la foi, aille se faire dépister.
Une deuxième fois pour avoir la confirmation.
Donc, en fait, les résultats, savoir qu'il est positif ou négatif, ne peut être déterminé qu'à l'issue d'un dépistage.
Voilà.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Nous parlons du comportement à adopter lorsqu'on est atteint du VIH-Sida et pour participer à notre émission, nos auditeurs peuvent nous appeler au 081 890 63 94. Ils peuvent aussi nous envoyer un SMS au 081 711 50 01. Nous avons deux auditeurs déjà en ligne. Nous avons Herman Kaumba qui nous appelle depuis Cabinda au Kasaï occidental et Bosco Bambalawisa qui est à Kisangani. Alors, nous commençons avec vous, Herman. Bonjour.
Bonjour, la radio Okapi. Bonjour à l'invité. J'ai trois préoccupations à savoir. Que l'invité puisse nous éclaircir du virus du sida. Parce que beaucoup de gens disent que le virus du sida a été créé. Est-ce que c'est une hypothèse vraie? La deuxième préoccupation est de savoir. Une séropositive et un séropositif peuvent-ils mettre au monde un séronégatif? La troisième préoccupation de savoir, une PVV connaît le rapport sexuel. Qui connaît le rapport sexuel? Quelles sont les conséquences défavorables qu'elle peut courir? Merci.
Ouais. Est-ce qu'il peut reprendre les deux dernières questions?
Oui, les deux dernières questions. Il a parlé il a demandé si une PVV, deux PVV peuvent faire un enfant sain. Et puis la troisième question, quelles sont les conséquences pour une PVV d'avoir des relations non protégées? Je crois que ce sont ces questions-là. Et Bosco Bambala Siwe, qui nous appelle de Kisangani, est en ligne aussi. Bosco?
Oui, bonjour Nonongwe.
Bonjour.
Et je salue aussi l'invité.
Merci.
Bon, j'ai peut-être plusieurs préoccupations, mais pour ne pas monopoliser la parole, je vais prendre ceux qui sont nécessaires.
Oui, allez-y.
J'avais lu un livre où on disait qu'il y a une période qui s'appelle l'intense, c'est-à-dire au cours de cette période, même si quelqu'un faisait le dépistage, on ne pourra pas découvrir qu'il a le sida. Est-ce que cela est vrai ou faux? Et la seconde préoccupation, c'est que j'ai suivi quelqu'un qui me disait qu'il a vu un homme qui souffrait du sida, mais sa femme ne souffrait pas de ça. Bon, je me demandais, est-ce qu'il y a des cas où on ne peut pas contaminer du sida à sa femme pendant qu'on en a? Et ensuite, j'aimerais poser la toute dernière question, parce que j'ai suivi des gens, bon, des gens peut-être qui n'ont pas étudié, qui disent que le sida signifie syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Qu'est-ce que l'invité peut dire à ces gens-là?
Merci à vous.
Voilà,
beaucoup.
Je vous remercie. C'est ça.
Oui. Jean-Serge Lomou.
Merci beaucoup. Bon, je crois que je vais commencer par la dernière question de notre ami Bosco. C'est leur point de vue de parler de syndrome imaginaire, mais il existe bel et bien un virus qui cause la déficience immunitaire, et ça, ce n'est pas imaginaire. Il existe de couples discordants, bien évidemment. Il y a des choses qui arrivent, c'est peut-être la grâce que Dieu accorde à certaines personnes. On a effectivement, il est prouvé qu'il est arrivé qu'il y ait des couples dont l'un est positif et l'autre reste négatif malgré qu'ils ont eu de relations à non protégées sans le savoir. Donc, mais cela ne veut pas dire que il faut que tout le monde s'expose parce qu'il risque, il pourrait aussi être un couple discordant. Donc, ça intervient comme une faveur, comme une grâce. Disons ça comme ça, et ça existe scientifiquement prouvé. La période qu'il a appelée de latence ou la période fenêtre, effectivement, dans le processus des contaminations, à partir du moment où le virus pénètre l'organisme de l'être humain, il se passe une période d'incubation. Et pendant cette période d'incubation, il est difficile de déterminer la présence du virus parce que simplement, lorsque la plupart de tests qu'on utilise actuellement, ce sont des tests qui nous permettent de déterminer les anticorps anti-VIH.
La période fenêtre, vous
voulez
dire.
La période fenêtre, là, c'est la période où le virus entre, mais les anticorps anti-VIH ne sont pas encore à quantité, si vous voulez, suffisante pour être détectable par le dépistage. C'est pour ça que pendant cette période, c'est la période la plus dangereuse.
Donc vous pouvez faire votre dépistage et c'est négatif, vous pensez que vous êtes sain.
C'est justement pour ça qu'il est recommandé de faire le dépistage 3 mois après avoir été exposé au risque de contamination, parce qu'en ce moment-là, on pense qu'on est dans la période où on peut déterminer la présence ou non de l'infection.
Il y avait trois autres questions.
Le rapport non protégé pour une personne vivant avec le VIH a plusieurs conséquences. La première, c'est la surinfection, c'est-à-dire l'augmentation de la charge virale de la personne qui est déjà infectée. Parce que vous ne savez pas la personne avec qui vous avez des rapports. S'il est aussi infecté, vous courez le risque d'une surinfection. Vous courez le risque d'une réinfection.
Autant s'abstenir, vous voulez dire?
Oui. Autant soit s'abstenir, soit utiliser une protection. Mais vous courez le risque de le contaminer si lui n'était pas positif. Il y a la question sur donner
le
naissance
PVV,
à un...
Le PVV.
Oui, ouais. Oui, on a aussi heureusement remarqué qu'il est arrivé des couples séropositifs et qui ont donné naissance à des enfants séronégatifs. Ça, c'est aussi un miracle. Mais aussi, il y a un processus scientifique médical qui peut permettre d'accompagner deux PVV de pouvoir mettre au monde un enfant qui soit un enfant sain. C'est tout un processus laborieux.
Ouais, ça, c'est la méthode
il faut se faire accompagner par
et
le médecin pour se
charge.
Faire. Oui. Est-ce que le virus a été créé? C'est une question de tous les temps. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que ça a été créé ou ça n'a pas été créé. Le plus important, c'est quel est notre comportement pour ne pas être infecté et quel est notre comportement lorsque nous sommes infectés.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Voilà, je rappelle encore que nous parlons du comportement à adopter lorsqu'on est atteint du VIH-Sida. Jean-Serge Loumou, spécialiste en VIH-Sida, répond à nos questions. Jean-Serge, nous avons deux autres auditeurs en ligne. Émile Moussungaï, qui nous appelle de Kolwezi, qui intervient de Kolwezi, et Gabriel Betou, qui est à Kalima. Émile Moussungaï, nous commençons avec vous. Bonjour.
Bonjour, madame.
Votre question ?
Ma question est en rapport avec le secret autour de les personnes vivant avec le VIH-Sida. Allô?
Oui, allez-y.
Oui, apparemment, ce secret-là protège plus le malade que la société. Alors, il peut arriver que la personne qui a été dépistée positive et qui est soumise aux antirétroviraux, apparemment, les gens ne connaissent pas. Il peut continuer à se comporter comme il veut. Mmh. Alors, quelles sont les mesures prises pour protéger aussi la société au cas où la personne qui est soumise sur le traitement est en abusé, quoi. C'est ça la question à notre invité.
Merci, Émile. Nous passons à Gabriel Betou. Gabriel, vous êtes en ligne, nous vous écoutons.
Ok, merci, madame. Je remercie aussi notre invité et je remercie aussi notre radio, notre Asubu, à qui j'ai laissé passer ma voix.
Merci.
J'ai des petites préoccupations. Si l'infirmière constate que le malade est atteint du virus du VIH-Sida, comment on peut lui annoncer cette mauvaise information-là? Et quel conseil qu'on peut lui prodiguer pour que les malades ne puissent pas désespérer dans le monde? La seconde, jusque-là, on n'a pas encore découvert un médicament spécifique au VIH-Sida. Je vous dis, je vous remercie.
Merci Gabriel. Jean-Serge Loumou, nous avons aussi des SMS, les auditeurs nous ont envoyé des SMS. Nous avons John Sogima qui nous écrit de Isiro, il dit « Je voulais savoir s'il faut se faire dépister, combien de fois pourrait être confirmé séropositif. Peut-on passer, ça c'est Blanchard qui nous écrit, peut-on passer la nuit ensemble avec une PVV, si oui ou non, quels en sont les dangers? Peut-on aussi porter les habits conjointement avec une PVV ?» Jean-Serge Loumou.
Merci beaucoup. Nous pouvons vivre avec une personne vivant avec le VIH sans crainte. Sans crainte plutôt, je voulais dire. Nous pouvons manger avec la personne, nous pouvons dormir sur le même lit, nous pouvons partager le repas ensemble, les vêtements. Mais par rapport aux vêtements, il faut qu'on se dise certaines choses. Ça n'a rien à voir avec le VIH. L'hygiène corporelle simplement recommande que si vous devez porter un habit porté par quelqu'un d'autre, il faut le nettoyer avant et le repasser. Ça, c'est rien que l'hygiène corporelle. Mais ça n'a aucune conséquence par rapport à l'infection à VIH. Combien de fois faut-il se dépister? Autant de fois qu'on se rend compte qu'on a couru un risque.
Pendant une année, pour une année, on peut se faire dépister combien de fois?
Si vous courez un risque, chaque fois que
ça
vous
veut
pensez
dire,
que
ça
vous
veut
avez
dire
couru,
quoi, courir un
par
risque?
Exemple, si vous vous rendez compte que vous avez eu un rapport sexuel non protégé,
et si vous les avez tous les jours, si vous les avez tous les jours, vous faites dépister combien de fois?
Pourquoi vous voulez continuer à avoir des rapports sexuels non protégés tous les jours avec des personnes dont vous ne connaissez pas la sérologie? C'est ça le problème. Le comportement, c'est aussi adopter un comportement sexuel responsable. Si vous voulez avoir des rapports sexuels tous les jours avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas l'état sérologique, alors utilisez un préservatif. C'est simple. Par rapport à l'annonce des résultats, j'ai déjà dit qu'il y a des personnes qualifiées, appropriées pour annoncer. Surtout l'une des choses que ces personnes savent, qu'il ne faut pas dramatiser l'affaire, il ne faut pas montrer comme si c'était la fin du monde pour la personne. Il faut toujours garder une attitude positive et donner de l'espoir à la personne parce qu'il y a de l'espoir. Cette personne peut vivre encore plus longtemps, même s'il est ou elle est infectée. Par rapport à la confidentialité, ce n'est pas, on n'expose pas la société. Dans le comportement qu'une personne infectée doit avoir, il doit se protéger et protéger la société. La loi sur la protection des personnes vivant avec le VIH, le somme de protéger la société, s'il se rend coupable, connaissant son statut et fait des rapports sexuels non protégés avec une personne et sans l'informer au préalable et met la vie de l'autre en danger, cette personne va avec le VIH, la loi dispose qu'il va être poursuivi.
Mais si au sein de l'entreprise, personne ne sait que cette personne est atteinte, c'est ce que l'auditeur a demandé.
Je suis en train de parler de la société.
La société, au
sein de l'entreprise.
L'entreprise, oui.
Au sein de l'entreprise, il n'y a aucune obligation pour que l'état sérologique d'un travailleur soit connu. il est libre de garder son statut sérologique. On ne peut pas le
l'obliger. Il a un comportement irresponsable au lieu de service.
Mais c'est ce que j'ai dit. Que ce soit en famille, au lieu de service, dans la communauté,
voilà.
Cette personne a l'obligation de se protéger et de protéger les autres. Si il le fait sciemment, connaissant son statut et met les autres en danger, il est on peut le poursuivre par rapport à la loi.
Mm-hmm.
Ça, c'est bien établi. Est-ce que par rapport au couple non, je crois que j'avais déjà répondu.
Vous avez répondu à toutes les questions. Oui,
discordant, oui.
Oui, Jean-Serge Loumou, nous avons trois autres SMS que je vais lire rapidement.
Mm-hmm.
Bonjour à tous. Que l'invité nous rassure s'il y a un calmant du virus VIH-Sida. Ça, c'est Mouissa qui nous écrit de Goma. Un deuxième SMS. Comment une PVV peut-elle supporter à vivre dans un milieu où elle se sent stigmatisée par son entourage? C'est Katiko qui nous écrit de Boende. Un homme qui connaît une femme malade de VIH peut-il, après le dépistage, avoir un résultat négatif? Justin Veda qui nous écrit de Kindu.
Pour quelqu'un, je crois que je comprends s'il dit connaît, si ce n'est pas, c'est dans le sens d'avoir des rapports sexuels, hein, parce que si je comprends le sens de sa question, j'ai dit, on est dans le domaine du possible,
mm-hmm.
on est dans le domaine de risque.
Mm-hmm.
Il est établi qu'un rapport sexuel non protégé est à haut risque. Donc, il y a une forte probabilité de se faire infecter lorsque vous avez des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée. C'est pour ça qu'il est recommandé que si c'était votre cas, allez vous faire dépister
mm-hmm.
dans les 3 mois qui suivent. Est-ce qu'il y a un médicament ou un calmant contre l'infection à VIH? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé un remède.
Oui.
Par rapport à ces virus. Mais par contre, nous avons les antirétroviraux qui permettent de retarder les effets de cette infection dans l'organisme,
mm-hmm.
de renforcer l'organisme pour lui permettre de vivre et de résister le plus longtemps, pourvu que l'on respecte la prescription et les autres instructions données par le médecin.
Oui, mais Jean-Serge, nous savons qu'il y a des tradipraticiens qui donnent aussi certains médicaments. Il n'y a pas de médicaments?
En tout cas, il faut jusqu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'OMS, que ce soit au niveau de notre ministère de la Santé, pour parler de la RDC, nous n'avons pas encore un médicament officiellement établi comme un remède absolu par rapport à l'infection à VIH. Chacun est libre d'affirmer ce qu'il affirme, mm-hmm. les tradis praticiens ou les magiciens ou les je ne sais pas qui d'autre. Mais ce que je dis là, c'est un fait scientifique.
Il n'y a pas de médicament. Voilà, nous avons une auditrice qui s'appelle Néné Kassiama. C'est un auditeur. Excusez-moi, il a un nom de femme. Néné Kassiama, il nous appelle de Kikwit. Néné, on vous écoute. Hein. Voilà, Jean-Serge Loumou, Néné Kassiama n'est plus en ligne. Mais il y a une question, vous n'avez pas répondu à cette question. Comment une PVV peut-elle supporter à vivre dans un milieu où elle se sent stigmatisée par son entourage? Là, c'est Katikyo qui nous a écrit de Boende.
Il est vraiment difficile qu'une personne vivant avec le VIH vive dans un environnement où il n'est pas accepté, où il est stigmatisé. C'est pour cette raison que tous les efforts que nous conjuguons, c'est d'amener la communauté à être une communauté, un environnement sûr pour tout le monde, y compris pour les personnes vivant avec le VIH. Les communautés ont à gagner en acceptant, en soutenant, en appuyant les personnes vivant avec le VIH plutôt qu'en les stigmatisant.
Oui, Jean-Serge Loumou, nous allons résumer puisqu'on est à la fin de notre émission. Alors, Jean-Serge, vous pouvez rappeler à nos auditeurs hein, quel comportement il faut adopter lorsqu'on est atteint du VIH-Sida, puisque vous savez, lorsqu'une personne apprend qu'elle est atteinte de cette maladie, cette pandémie, cette nouvelle peut l'affecter. Comment est-ce que cette personne peut, quel comportement on peut adopter lorsqu'on vous apprend cette nouvelle?
Je disais, d'abord, il faut accepter son statut sérologique. Il faut être ouvert à l'aide et accepter de se faire accompagner. Il faut garder une attitude positive car il y a encore de l'espoir pour celui qui vit et le VIH ne veut pas dire la mort. Il faut se protéger et c'est très important et protéger les autres. Et il faut respecter les instructions données par les prestateurs, par les accompagnateurs et par le médecin, notamment respecter le repos, respecter, réduire notamment la fréquence des rapports sexuels si on avait été très très active, parce que il y a un impact sur l'organisme. Il faut pratiquer les sports, mais les pratiquer de manière modérée. Il faut respecter, avoir une alimentation équilibrée. Il faut s'abstenir ou du moins réduire tout ce qui peut à déséquilibrer le corps. Comme l'alcool, comme les tabacs, parce que il faut simplement suivre les instructions données par le médecin et par le prestataire.
Autrement dit, il faut avoir un mode de vie sain.
Il faut avoir un comportement, un mode de vie modéré et équilibré.
Bien, merci à vous Jean-Serge Loumou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialiste en VIH-Sida et avec vous, nous avons parlé du comportement à adopter lorsqu'on est atteint du VIH-Sida. Merci d'être venu en studio répondre aux questions des auditeurs.
C'est moi qui vous remercie.
Au capé.